Il est tout sourire. Il prend du mieux de jour en jour depuis son scorbut de la semaine dernière. Denis Gravel est en studio.
L'important, c'est d'être prêt ce soir pour encourager son pays.
Make Canada great again.
Yes. Je vais te lire un message, là. Message du gros orange de l'autre bord.
C'est terrible.
C'est ce qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est Donald Trump qui parle. Je vais appeler notre grande équipe américaine de hockey ce matin pour les encourager à la victoire ce soir contre le Canada.
Il l'a fait d'ailleurs.
Qui, avec des impôts beaucoup plus bas et une sécurité bien plus forte, deviendra peut-être un jour et peut-être bientôt notre précieuse et très importante 51e État. Je prendrai la parole ce soir devant les gouverneurs à Washington, D.C. et je pourrai donc malheureusement pas assister au match. Mais nous regarderons tous, et si le gouverneur Trudeau souhaite se joindre à nous, il sera le bienvenu. Bonne chance à tout le monde et passez un excellent match de hockey ce soir. Tellement excitant. Non. Signé Donald G. Trump.
Fait que tous ceux qui reprochent aux gens de huer un hymne national en disant qu'on mélange pas la politique et le sport, ben vous pouvez dire que c'est le gros cave de l'autre bord qui a commencé.
Et là, Justin Trudeau vient de tweeter « Est-ce que le film Barbie est présenté quelque part au Canada au cinéma? »
Pas vrai, ça, là.
Non.
T'as-tu cru
là, tu
à
me faisais
ça?
Peur.
Mais moi, c'est toi qui me fais peur de penser ça.
Ah non, moi aussi, s'il m'avait fait ça, j'aurais cru ça. J'aurais cru ça vrai.
Oh, oh. Oui, moi, c'est à ce point-là que j'apprécie les politiciens.
Ça va être tout un match ce soir, mon ami. Ouais. Je sais pas si ça va commencer avec de la bagarre. Je pense pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir des mises en échec ce soir comme pas possible. Les gars vont tout donner.
J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus prudent comme hockey, peut-être dans les 10-12 premières minutes. Mais après ça, on a vécu un décrescendo le samedi. Là, ça a commencé fort. Puis après ça, on dirait qu'on a peiné à retrouver cette intensité-là en deuxième et en troisième période. J'ai l'impression qu'à soir, ça va être complètement l'inverse.
Ouais.
La nervosité, le stress va faire en sorte que ça va peut-être partir slow, ça va peut-être partir décousu un peu. Mais quand le feu va pogner, première mise en échec, vraisemblablement, là, à partir de là, on ne regardera pas en arrière.
Ouais, il va falloir que McDavid cesse d'être généreux avec la rondelle, là, parce qu'il y avait dans le match contre les États-Unis, on dirait qu'il cherchait plus à la passer qu'à la mettre directement
ouais,
au filet.
Faut lancer.
J'ai l'impression que ce soir, le mot d'ordre, c'est un peu, là, t'es Connor McDavid, t'es le meilleur joueur de hockey au monde actuellement. On te fait confiance pour lancer.
Là, on cherche pas le jeu parfait. Faut juste que les rondelles rentrent dans le net. C'est pas compliqué, là. Puis les grands doivent se lever. Il y a déjà des joueurs de l'équipe américaine qui disent qu'ils ont parlé à Trump par téléphone ce matin et qu'ils vont gagner pour Trump ce soir. Fait que c'est full politique. On n'a pas le choix. On n'a pas le droit de l'échapper.
Non. Puis moi, mes gars, ils ont dit « Papa, qu'est-ce qu'on fait à soir? Hein? » Ben là, je sais pas, qu'est-ce que vous autres vous faites à soir?
Hey, mais moi, c'est la première fois que j'ai hâte à une game de hockey de toute ma vie.
Moi, je suis au bord avec la gang, puis on va regarder le match. Eux autres, ils ont du hockey demain matin.
Ah!
Ils vont l'écouter à la maison, mais avec leur mère. Fait que c'est un peu plate pour
avec leur mère et une bière? Ouais. Ou
leur mère va juste demander, je comprends pas pourquoi vous écoutez ça, et les gars vont écouter ça en sachant que moi, je suis en train de m'amuser au bord à boire de la bière avec les copains. Fait que ça va être toute une soirée. J'espère que vous avez préparé de quoi, que ce soit en famille ou avec les amis. Ça va être une belle, un bon moment. Pour
on a-tu vraiment des chances?
Ben oui.
On a vraiment des chances ou c'est l'espoir
notre
fait vivre?
Notre seul point faible est dans les filets. C'est notre seul
ben, c'est quand
point
même
faible.
Je sais pas, je suis pas experte.
On sait pas comment il va sortir. T'sais.
Les meilleurs joueurs, c'est clairement Team Canada qui les a. De la façon que l'équipe américaine est constituée, est-ce que le fait justement que Charlie McAvoy soit pas là, qu'il y a peut-être un Tkachuk qui couvre une blessure, est-ce que ça va faire en sorte que c'est une équipe qui va être un peu moins agressive? Mais moi, la défensive de Team USA m'a tellement impressionné samedi soir. T'sais, avant même de parler des gardiens de but, je comprends qu'Elebok est pas mal meilleur que Bennington. Mais il y a pas beaucoup de scénarios où tu gagnes en scorant rien qu'un but. Donc, c'est les gros canons du Canada qui doivent parler. Crosby doit scorer des buts. Nathan MacKinnon doit scorer des buts. Connor McDavid doit scorer des buts. C'est pas compliqué. Là. C'est pas une grande recette mathématique. Il faut que les grands joueurs se lèvent puis qu'ils livrent. C'est aussi simple que ça.
Il faut que Hellebuck ait la diarrhée aujourd'hui.
Idéalement.
Ouais.
Idéalement.
Parce que lui, c'est le gardien de but des États-Unis. C'est le meilleur gardien de but actuel au monde.
Mais
tu lui souhaites la diarrhée et non de gagner contre lui.
Écoute, il y a plein de monde qui ont perdu le job en santé là, puis en détection virale aux États-Unis. Là, ben, oui. Peut-être que le résultat, c'est justement que les Bucks vont pogner le scorbut à Boston.
Tu penses qu'il va en avoir un Dodge au Canada à un moment donné?
Je sais pas.
Parce que ce qu'ils sont en train de faire là aux États-Unis, c'est de couper des postes qui servaient absolument à rien. Puis ils sont en train de se rendre compte que depuis des décennies, ils engrossaient la machine sans que ces gens-là puissent justement faire en sorte que les États-Unis fonctionnent mieux. Ça prendrait un coup de barre comme ça au Canada, puis même au Québec.
Ça, c'est un côté de la médaille. L'autre côté, ben, tu as des experts en santé publique qui vont te dire que présentement, il y a des éclosions de rougeole dans le sud des États-Unis, puis que tu enlèves beaucoup de gens qui sont des experts là-dedans, puis dans l'information. Puis ça va faire en sorte que ces virus-là, ben, nous autres aussi, on va peut-être être pognés avec de plus en plus. Là,
puis
parce
vous
que
savez
les
pourquoi?
Gens ne croient plus au vaccin, puis qu'on coupe l'information relative à la santé publique à la grandeur des États-Unis. Ben, quand on va continuer de faire des échanges, les microbes vont suivre. Puis, tu sais, la fameuse phrase, quand les États-Unis toussent, le Canada a la grippe, ben, c'est peut-être des choses qu'on va voir dans les prochains mois et les prochaines années aussi. Tu sais, il y a comme deux façons de voir la patente. Puis c'est dans le mandat de 4 ans qu'on va constater les effets s'il y en a.
Parce qu'il y a certains endroits où ils ont coupé que ça effectivement peut-être pas de bon sens, on va se le dire, mais de trouver tous ces milliards-là qu'on payait pour rien, de voir qu'il va y avoir des économies pour chaque Américain, je trouve ça incroyable. Mais ça va tellement mieux chez nous en santé. Je lisais un article de Félix Lajoie du Soleil qui parlait de ce qui se passe actuellement pour ce qui est de nos services ambulanciers. Denis, c'est juste hallucinant. Est-ce que tu sais, il y a combien d'appels actuellement qui sont logés au 911 pour une ambulance chaque jour? Mettons, en 2023, là, je vais prendre les chiffres de 2023, c'était 483 appels par jour pour ce qui est du 911.
Ce qui est énorme. Là.
Ce qui est énorme. Actuellement, là, les temps d'attente pour ce qui est d'une ambulance à Québec, ça peut aller jusqu'à 12 heures.
Tu sais, rendu à 12 heures, marche jusqu'à l'hôpital, ramasse ton bras, je sais pas, mais c'est pas supposé d'arriver. Moi, il y a un chiffre qui m'intéresse là-dedans, là. C'est combien? C'est 400 par jour?
Oui, là, on est à 460 par jour dans les derniers jours.
OK. Le pourcentage d'urgence là-dedans, c'est quoi? Si on veut être bien honnête, là.
Ben en fait,
À
mes yeux, à moi, quand t'appelles au 911 pour une ambulance, c'est supposé d'être une urgence. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, il y en a qui prennent ça comme un taxi.
Oui.
Il y a des résidences pour personnes âgées qui disent, au lieu de l'envoyer en taxi, moi, de l'envoyer en ambulance, ça va être peut-être un peu plus confortable. Puis anyway, on paye pas.
Ouais.
Ou ben c'est inscrit dans leur truc d'assurance. Mais Fred Maheu, que j'aime bien, que j'ai reçu une fois de temps en temps ici à la station, il disait que dans les derniers jours, c'est 460 appels par jour. Normalement, il roule autour de 250. Sais-tu, il y a combien d'ambulances qui virent à Québec actuellement?
Combien?
C'est 25 à 27 équipes d'ambulanciers qui patrouillent en même temps sur le territoire chaque jour et ça ne suffit pas.
Ben, ça. Pas besoin de sortir la calculatrice pour le constater. Puis, tu sais, je vous l'avais raconté, je l'ai vécu dans un tournoi dans le coin de Saint-Augustin, là, où il y a un jeune joueur qui est resté sa patinoire sur le dos pendant 1 heure et quart avant que l'ambulance arrive, effectivement. Puis, je comprends qu'à partir du moment où il bouge les extrémités, c'est pas urgent. Mais il y a quand même un code préventif qui dit ben on prendra pas de chance puis on va attendre des ambulanciers pour être capable de le sortir de sur la patinoire. Tu sais, parce qu'on veut pas faire de faux mouvements, on veut pas créer des blessures, on veut pas aggraver quoi que ce soit. Je comprends les gens de l'organisation d'être prudents, mais on a été 1 heure et demie à se poser des questions. Moi, si je suis le parent de cet enfant-là, on a bien beau me dire qu'il va bien, j'ai hâte que l'ambulance arrive. Là. Mm-hmm. T'sais, j'ai hâte que quelqu'un le ramasse. Là.
Quand j'ai rencontré les patrons ici à la station, quand ils ont dit « Hey Marceau, on aimerait ça que tu viennes avec nous autres », ils m'ont présenté un peu la station puis ils m'ont dit quelque chose qui m'avait marqué, c'est que pour ce qui est de Boulevard, ils voulaient qu'il y ait de la musique, du sport, de la musique rock, bien entendu, ils voulaient de l'opinion, mais ils voulaient surtout des gens à cette antenne-là qui puissent trouver des solutions, que ça vienne d'eux ou que ça vienne des professionnels dans les sujets qu'on parle.
Tout un défi quand même.
Ils voulaient surtout que les gens proposent des solutions puis je trouvais ça génial. Puis quand j'avais reçu Fred, qui est ambulancier, qui est le président du syndicat, il dit, nous autres, là, on en a des solutions qu'on peut présenter au ministre de la Santé demain matin. Ce serait les meilleures solutions au monde, mais il n'y a personne qui nous écoute. Ce serait, à l'hôpital, de laisser un ambulancier ou deux dans le garage qui s'occupe des civières
ouais.
quand les ambulanciers vont porter les patients. Si c'est un patient qui a un problème de cœur, tu comprends qu'il n'attendra pas dans le garage, mais si c'est quelqu'un qui s'est cassé une jambe, exemple, ben est capable d'attendre dans le garage le temps qu'on en prenne soin.
Là, tu parles d'ambulanciers, tu as dit des ambulanciers dans le garage, mais lui, ce qu'il proposait, c'était des infirmiers et infirmières.
Non.
De l'hôpital.
Ce qu'il m'avait proposé, puis il m'en a reparlé
parce qu'en
nombre,
il avait parlé de ça.
Ce qu'il m'avait proposé, c'est qu'il m'en a reparlé dans trois semaines, c'est d'avoir un ambulancier ou deux parce qu'ils sont obligés de rester avec le patient jusqu'à temps que l'hôpital puisse les prendre en charge.
Oui.
Fait que c'est un ou deux ambulanciers pour s'occuper de toutes les civières qui sont pas priorité 1, exemple. Mm-hmm. Puis pendant ce temps-là, les autres gars peuvent partir sur le terrain.
C'est un autre appel.
Sais-tu ce qui est arrivé cette semaine? 2h30 d'attente avec un patient dans un garage.
Dans le parking.
Puis c'était pas une priorité 1.
Ouais.
Ça veut dire que c'est pendant 2h30, ton
efficace,
ambulance
là.
Est dans le garage, puis t'attends avec le patient. C'est quelque chose qui n'est pas très urgent.
Tu sais, c'est hallucinant de voir le manque de communication. Puis c'est comme dans un paquet de sujets d'actualité. Il y a des cols bleus qui m'ont texté hier pour dire... Tu sais, nous autres, notre syndicat, là, on a su qu'on était en grève illimitée quand vous l'avez dit en onde à Boulevard. On n'a aucune communication. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Même les votes, on n'est pas au courant tout le temps. On est comme laissé à nous-mêmes. Tu regardes, il y avait un texte intéressant aussi concernant l'alcool au volant. Les policiers s'en occupent de moins en moins. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est tellement rendu compliqué de remplir la paperasse pour un cas d'alcool au volant qu'on préfère les laisser filer. Puis il y a des policiers sous le couvert de l'anonymat qui racontaient, c'est une fin de chiffre, là. T'arrives à une station-service puis t'as quelqu'un qui sent la robine, qui prend son char.
Hein?
Ben le policier va préférer le laisser aller que d'embarquer d'un cas qui va lui prendre 4 heures de paperasse. Tu sais, les gars disent, ben nous autres, on veut continuer là, de lutter contre l'alcool au volant, mais on a tellement de paperasse, puis c'est tellement compliqué qu'on préfère des fois plus le faire, puis lever les yeux, puis laisser les choses aller.
Hey, c'est super dramatique.
Ben oui, puis c'est un problème qui est abordé, puis encore une fois, le canal de communication semble coupé parce qu'eux autres dénoncent une situation, ils ont sûrement des solutions, puis il n'y a pas personne qui rebondit là-dessus, il n'y a pas personne qui réagit là-dessus. Si on a des solutions concrètes sur le terrain dans le cas des ambulanciers. En regardant les chiffres ce matin, le ministre de la Santé est comme obligé d'aller s'asseoir avec eux autres puis de dire « Hey, on va se prendre 24 heures puis on va mettre en place les solutions que vous avez trouvées. » Ça peut pas être pire que c'est là de toute façon.
Denis, les gars nous écoutent puis ils nous envoient de l'information, dont une vidéo qui est devant moi là, qui a été prise à 17h30 hier à l'Hôtel Dieu de Lévis. Il y a une quinzaine d'ambulances qui sont en attente pour rentrer un patient à l'intérieur de l'Hôtel Dieu. Je l'ai en vidéo.
Hey, ça, quand tu m'as appris ça, moi, je capotais parce que dans ma tête, les ambulances n'attendaient pas à l'urgence comme nous autres. OK, fait que ça, c'est toutes des ambulances qui sont dans le parking.
Oui, puis là, ça, c'est l'autre bord. Puis là, regarde, ils franchissent une autre porte, puis tu vois encore.
Il y en a d'autres.
Il y en a une quinzaine.
Tabarnouche.
Ça, c'est à 17h30 hier. Regarde, il y en a d'autres partout, là. Fait que les gars, ce qu'ils proposent, c'est de laisser des ambulanciers le temps que les infirmiers et infirmières puissent prendre le patient puis le rentrer à l'intérieur sur les civières.
Au lieu d'être 24 ambulanciers sur 12 ambulances, t'aurais deux personnes là en permanence puis les autres pourraient toutes repartir sur d'autres cases.
Exactement.
Ça m'apparaît simple et efficace.
C'est ce qu'ils avaient proposé là, 3 ans, quand j'étais arrivé, ben là 2 ans et quelques, quand j'étais arrivé ici à la station, je trouvais ça génial. Puis encore à ce jour, Christian Dubé ne l'aura pas porté oreille.
C'est triste parce que c'est une vidéo qui en dit long. Puis tu vois, les effectifs sont là, mais ils peuvent juste pas partir.
Il y a des points intéressants qui rentrent par texto, entre autres. Un, c'est pas la première fois que je vois ça ou j'entends parler de ça, mais aussi dans les résidences pour personnes âgées. Le personnel qui se trouve à l'intérieur, parfois, est obligé d'envoyer à l'hôpital des patients qui pourraient prendre en charge selon des compétences en santé, mais pour une raison X, il les envoie à l'hôpital, en ambulance. Quelqu'un, entre autres, qui dit, tu sais, moi, ma mère, a fait des chocs vagales de temps en temps puis ils prennent pas de chance. À chaque fois, c'est un transport, mais c'est pas urgent. Puis là, c'est un enfant qui adore son parent, qui a la considération et l'émotivité de qui nous envoie ce texto-là. Là.
Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. J'étais assis, j'étais au poste de réception, puis il y a quelqu'un qui dit, la dame à 201, elle file pas. Et là, je dis, qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle a mal à la tête, elle file pas, elle va aller à l'hôpital. Je dis, OK, est-ce que je colle un taxi? Non, c'est beau, c'est fait, l'ambulance est appelée. Attends, elle file pas, elle a mal à la tête.
Hey, sur 400 appels par jour, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste de rien. Je suis convaincu que tous ces gens-là ont pas besoin d'aller à l'urgence en ambulance. Convaincu qu'on peut en enlever à moitié.
Mais
l'autre moitié, ben là, on a des solutions concrètes là, qui feraient en sorte que les ambulances seraient pas mal plus sur la route et sur les calls qu'à poireauter dans le parking avec le reste du monde qui poireaute à l'urgence.
C'est hallucinant. Merci beaucoup aux ambulanciers qui nous envoient de l'information actuellement. C'est le fun de vous savoir là, puis on aime bien ça jaser de ce qui se passe dans notre ville. En fait, c'est pas mal ça, notre mandat. Là. C'est une radio locale, puis on est proche de notre monde. Fait que merci beaucoup. Parlant de gens qui aiment bien nous envoyer l'information, les cols bleus hier qui m'ont écrit qu'ils se sentaient cheap parce qu'effectivement, ils ont voté pour une grève illimitée, mais ils savaient pas que les arénas puis les loisirs, ça allait arrêter pendant plusieurs jours jusqu'à temps que ça se règle. On vous n'en veut pas à vous autres en passant.
Mais factuellement, vous avez de l'air d'une gang de cocons.
Faites-vous entendre, si possible, à vos représentants syndicaux, criez le plus fort possible pour dire « OK, on va mettre des moyens de pression sur la ville, pas déneiger les alentours de l'Hôtel de Ville de Québec, laisser des poubelles là, pas ramasser ça. » Moi, je vais toujours être de votre bord. Mais empêcher les enfants de jouer leur game de hockey, il y a des gens qui vont être dans un processus de classement là, pour leurs activités sportives qu'ils font pour l'année prochaine.
Le soccer, entre autres, c'est là que ça se passe. Ouais. Pour les gens qui ont des sessions d'hiver et qui jouent dans les stades intérieurs. Écoute, à l'Arena Maximono, t'as-tu vu les terrains de soccer intérieur? C'est hallucinant. Là.
Fait qu'ils pourront pas le faire, ce type de classement-là. Fait que ça va retarder tout le monde. Puis il y en a qui vont être privés de loisirs et de sport. Fait que, tu sais, je suis pas mal persuadé que tout le monde est de bonne foi là-dedans, mais les représentants syndicaux devraient réagir rapidement. Puis c'est le temps de le faire parce que là, de plus en plus, les journalistes creusent à savoir qu'est-ce qui leur a été offert. Puis ça, c'est rendu public. Puis t'es tombé sur un article là, ce matin.
Écoute, ben là, il est en une du Journal de Québec. Dans le fond, l'offre qui a été refusée par le syndicat des cols bleus, ça ferait en sorte que, au top de l'échelle salariale, c'est des salaires de 93 500 $ qui ont été refusés. Moi, ça m'apparaît des salaires respectables. Je sais pertinemment qu'il y a des parents qui ont payé pour une saison de hockey avec leurs enfants. Prenons le hockey en exemple. Il y a plein de parents qui ne font pas ce salaire-là, qui voient leurs enfants pris en otage par des gens qui disent non à ce salaire-là. C'est rien pour aider la réputation des cols bleus. S'il y avait de l'air cocombe hier, ils ont de l'air encore plus cocombe aujourd'hui, là, parce que là, les chiffres sont sortis, puis on comprend pourquoi le syndicat des cols bleus ne voulait pas sortir les chiffres. Parce qu'ils savent que les offres sont bonnes. Puis là, on parle de Lévis. Tu sais, on dit à Lévis, les cols bleus sont mieux payés qu'à Québec, puis nous autres, on veut le même salaire au moins. Le maire Marchand, lui, ce qu'il dit, c'est ils ont plus d'argent de l'autre bord, mais il y a bien des jobs qu'ils font de l'autre bord que vous autres, vous voulez pas faire. Là, on peut pas vous donner l'argent sans vous donner les jobs. Mais là, vous autres, vous voulez pas travailler plus, vous voulez pas faire ce qu'ils font de l'autre bord, mais vous voulez le paye. Moi, ça m'apparaît sensé comme raisonnement. Au-delà de ce qu'on peut penser de Bruno Marchand dans un paquet de dossiers, en 48 heures, les agissements du syndicat des cols bleus ont fait en sorte que le vent a complètement tourné. Maintenant, ils l'ont d'en face. Ils l'ont d'en face. Vous avez refusé des 100 000 $ de salaire. Puis vous prenez les enfants en otage pour ça. Vous passez pour une maudite gang d'égoïstes puis une maudite gang de jambons.
Donc, parlez à vos représentants syndicaux, mettez-leur de la pression, puis il est encore temps, là. C'est quoi la grève? C'est aujourd'hui?
16 heures.
Ça commence à 16 heures, donc il reste encore quelques heures. Mettez de la pression, puis enlevez les loisirs puis les sports de ça. Vous allez avoir la population de votre bord, les amis.
Puis tu sais le dire aux nouvelles versus quand le courriel rentre? Moi, ça m'est arrivé hier, en début d'après-midi, juste avant de partir le show avec les filles. J'ai reçu mon courriel de Hockey Charlebourg. Puis dans le courriel de Hockey Charlebourg, ben là, ils font la liste exhaustive des arénas où il n'y a plus d'activité. Fait que là, toi, tu t'en vas dans ton calendrier de game, puis tu fais « OK, OK, OK ». Fait que si ça se règle pas, d'ici à la fin de l'année, mon gars n'a plus de pratique. Il a perdu le tiers de ses games de saison régulière, puis il reste deux games. Une à Clermont, puis une à Boischatel en fin de semaine.
Est-ce que tu leur en as parlé à tes enfants de ça?
Ben, c'est une drôle d'ironie parce que mon grand, dans son cours d'histoire, apprend les débuts du syndicalisme.
En quelle année?
C'est au milieu des années 1800.
Non. Quoi? Lui?
Ah, il est en cinquième année.
Mais tu parles du mouvement des États-Unis.
Je parle du syndicalisme qui s'est installé dans les usines avec les ouvriers qui étaient dans des conditions abominables. C'est ça. Fait que là, t'expliques ça. Puis en parallèle, tu dis, ben aujourd'hui, on comprend que les ouvriers, ils se tuent plus à l'ouvrage. Là. Les conditions ont changé. Mais le droit de grève est resté. Puis, ben, le syndicat d'École Bleue a décidé qu'il faisait la grève parce qu'il pensait qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Et je pourrais rajouter à mes enfants l'information qu'on apprend aujourd'hui, qu'ils ont refusé des salaires quand même assez respectables.
Oui, puis tu sais, je veux dire, il y a des gars qui m'écrivent actuellement, là, un de mes chums d'enfance qui est sur ma page Facebook, puis il essaie de se défendre parce que là, lui, il vient de voir justement l'article en question oui. que tu nous parles. Puis là, il dit ben moi, j'aimerais réagir, je suis loin de gagner ça. Je vais aller sur son message. Il dit même en faisant une tonne de temps supplémentaire, je suis loin du 77 000 qu'on parle dans cet article malhonnête. On a toujours été ouvert à la négociation depuis le début, étant aussi longtemps que ça négociait. On ne voyait pas la nécessité d'aller en grève. Ce n'est quand même pas nous qui allons déposer une offre finale en menottant l'école bleue à des moyens de pression sans aucune importance à cause des services essentiels. La ville attendait ce moment pour gagner l'appui du citoyen et garrocher des chiffres pour nous faire passer pour des sans-cœurs. Pat, c'est à toi que je m'adresse parce que je sais que tu es un auditeur. Va voir ton représentant syndical et dis-lui qu'on doit rouvrir les arénas et on doit rouvrir les loisirs.
Et l'article n'est pas malhonnête, je veux dire, c'est factuel. L'École bleue ont refusé des salaires annuels de 93 500 par année au sommet de l'échelle dans 6 ans et ont décidé de déclencher une grève générale illimitée. C'est des augmentations de 21,5% qui font en sorte que dans 6 ans, les salaires qui ont été refusés factuellement sont de 93 500$. Il n'y a pas de malhonnêteté là-dedans. Il y a des faits exposés par une journaliste. Des faits qui n'ont pas voulu, que le syndicat d'École bleue n'a pas voulu corroborer et n'a pas voulu partager. Dans ce temps-là, les journalistes s'y creusent puis ils trouvent.
Voilà.
Ils ont trouvé les chiffres. Bravo. Voilà. Bravo à Stéphanie Martin du Journal de Québec.
Puis on était gentils, on n'a même pas parlé du fonds de pension en plus avec ce salaire-là.
Ouais. Puis les heures supplémentaires, puis tout ça, là, parce que ça fait exception de tout ça, là. Ouais. On parle juste de salaire.
Effectivement. Non, c'est incroyable. C'est des bonnes conditions. Puis, tu sais, quand on parle de ça, c'est pas de la jalousie, les amis. Là. Moi, je suis bien content que vous puissiez faire cet argent-là, puis vous dépenser dans la ville aussi et tout ça, mais vous n'aurez jamais l'appui de la population si vous touchez aux enfants.
Ton ami a raison sur un point. Il passe pour une belle gang de caves. Ça, là-dessus, il a raison.
Est-ce que ce soir, à 20h, on a mis notre pays en jeu?
Oui.
On peut-tu le faire?
Ben, écoute.
On dit à Trump, si on gagne, tu nous crisses la paix avec le 51e État, puis tu nous aides à protéger nos frontières.
Ah, oh, ça serait imbécile faire de la politique de même, là, pas parler de sport, mais SOS.
Le pire, c'est qu'il mordrait probablement. Mais
oui, pourquoi? Mais parce que j'ai dit, c'est imbécile. Fait que c'est sûr qu'il va mordre.
Moi, ça, c'est mon côté fataliste. J'ai pas suffisamment confiance en Team Canada pour jouer notre avenir politique dans une game de hockey.
Puis
ce
même
soir.
Si t'avais confiance, j'espère tu irais pas là.
Ah, être confiant, là, faudrait y aller. Là. Oh, hey, c'est assez le niaisage. Là. Si Trump est prêt à marchander puis qu'on a des très fortes probabilités de l'emporter, moi, je pense qu'il faudrait l'essayer. Absolument.
Denis Gravel.
Ah oui.
T'as déjà entendu parler de la ministre fédérale du patrimoine, Pascal Saint-Onge?
Oui.
Elle a travaillé pendant des mois et des mois et des mois et des mois avec un comité pour penser à un plan de refonte complète du mode de financement de la Société Radio-Canada. Ils sont vraiment dans la misère là, quand tu écoutes la fin de leurs émissions. Là,
ah oui,
les 800 personnes qui ont travaillé pour cette demi-heure-là ou pour cette heure-là, c'est toutes des gens qui sont dans la misère avec de très piètres conditions.
Tu sais, à la radio de Radio-Canada, quand une émission se termine à 16h, il faut qu'il termine à 15h50 parce que le temps de remercier toute l'équipe, ça prend 10 minutes.
Exact.
Ça te prend-tu 10 minutes, toi, de dire merci à ton équipe?
C'est quand il me dit merci, puis c'est moi son équipe.
J'ai tout le temps merci, Pascal.
Tu ben oui.
C'est bye, pas long, Pascal, hein? Ou bye, tout le monde.
Merci, Pascal. Bye, Pascal.
Comment nous coûte Radio-Canada par habitant? Ça, ça inclut vos enfants, soit dit en passant, qui ne paient pas encore d'impôts ou les personnes qui ne gagnent pas assez cher pour payer de l'impôt. Comment ça coûte par habitant, Radio-Canada?
Combien?
Ce serait 33 $ par habitant.
OK.
Puis.
Vous n'êtes pas choqué de ça, 33 $ par habitant, par exemple?
Coûte moins cher que Netflix, mais je m'en sers pas mal moins.
Mais non, au contraire, Denis, tu t'en sers à chaque jour avec tes nouvelles.
Moi, j'aimerais payer beaucoup moins que 33 $. J'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui se perd, mais c'est pas moi qui travaille à cette fameuse refonte-là.
C'est un réseau de nouvelles, Denis. Là. Radio-Canada va alimenter TVA ou Québécois qui vont tous s'interalimenter, vont tous se pousser.
Est-ce que là,
si tu l'as pas,
c'est encore la priorité.
Les autres se perfectionnent.
C'est encore
pas.
La priorité, le réseau de nouvelles. Ben, c'est les shows de variété puis les shows
là, on peut se questionner
dans
sur
direct
ça.
De l'univers. Voilà. C'est super bon en direct de l'univers, mais c'est-tu leur mandat puis c'est-tu leur job? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie du budget qui va dans la variété pas mal plus que dans la qualité de l'information. formation.
Est-ce là, qu'elle a... ça, tu peux te questionner.
Excusez-moi. Est-ce qu'elle a, avec son comité, trouvé des endroits où on dépensait de l'argent qui ne correspondait pas, à, comme tu dis, au mandat de Radio-Canada? Est-ce qu'elle a, avec son comité spécial, où ils ont travaillé extrêmement fort, ils ont bu du café, les repas étaient fournis, est-ce qu'elle a trouvé un endroit où ils pouvaient retirer de l'argent?
Donne-moi cinq minutes, puis la grille horaire, puis j'aurai même pas le temps de finir un café. Mais t'en trouver deux, trois spots assez faciles, là. On commence-tu le dimanche soir?
Ouais, non, ils ont pas fait ça, non. Ils ont regardé, puis ils ont dit, coudonc, tu sais, le service public est un peu politisé, donc on va le dépolitiser. Ça va être une formule qui va permettre aussi un financement plus stable et prévisible à long terme, qui lui permette de se distancer du politique. Et là, je me pose des questions, mais de quoi elle parle? Ils veulent retirer les publicités. Tu sais, les entreprises privées qui disent « Hey, nous, pendant le bulletin de nouvelles, on aimerait ça se faire voir parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le bulletin de nouvelles. Mm-hmm. » Fait qu'on va payer pour pouvoir être vu là, puis cet argent-là va à Radio-Canada pour payer les employés de Radio-Canada.
C'est parce que je pense pas que si Calinette se paye un spot pendant un bulletin de nouvelles, ils prennent le contrôle de l'information du bulletin de nouvelles. C'est un raisonnement qui est complètement ridicule. Moi, j'irais plus dans l'autre sens. Je garderais des émissions phares sur l'actualité, l'information et le culturel, la semaine verte, ce genre de choses-là, puis ainsi de suite. Puis le reste de Radio-Canada, dans la donne actuelle, avec les services de streaming, puis tout ça, ciao, bye! Puis à partir de ce moment-là, ben, si notre 33$ sert à financer un réseau d'information avec un grand I qui est capable de se placer au-dessus de la mêlée, puis de faire pas mal plus d'information que d'entertainment, moi, je suis prêt à faire mon petit bout là-dedans de contribuable.
Donc là, si elle enlève l'argent des entreprises privées qui veulent placer à Radio-Canada, si elle retire le droit à des partis politiques, exemple, de s'acheter de la publicité sur le bulletin de Radio-Canada, qui va devoir casquer le manque à gagner?
Ah, c'est nous autres.
Ben, c'est ça qu'elle a trouvé!
Ouais, c'est une bonne idée, hein? Nous faire payer plus cher pour Radio-Canada, c'est... ouais.
C'est ça, sa recommandation.
Très 2025.
Fait que quand on parle de dépolitiser, c'est qu'on n'aura pas besoin de demander à Pierre Poilievre, exemple, un peu plus d'argent pour Radio-Canada, alors que Pierre Poilievre, qu'est-ce qu'il avait dit pour Radio-Canada? Ben, ils vont devoir s'arranger avec l'argent qu'on leur donne, on n'en en donnera pas plus.
Ouais.
Et ça, ça fait beaucoup de peine aux libéraux. Puis elle a décidé de se faire un comité spécial. Et selon la ministre, la fin des publicités lors des émissions d'information va permettre d'apporter, Denis, de l'oxygène pour le secteur privé pour qui ces revenus publicitaires-là deviennent accessibles. Dans le document, elle affirme que la dépendance de la société d'État aux publicités risque de compromettre ses objectifs de service public en favorisant le contenu générateur de revenus au détriment des avantages sociaux, culturels et démocratiques voulus dans son mandat.
Fait qu'on va continuer de cacher in la pub de toutes les émissions à gogo de Radio-Canada, de faire une concurrence un peu déloyale au réseau privé parce qu'on a accès à des subventions qu'eux autres n'ont pas accès. Puis par-dessus tout ça, nous autres, on va nous demander de payer plus cher pour le financement d'un réseau qu'on utilise de moins en moins. Il y a de quoi là-dedans qui marche pas, là?
Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est se sauver le cul, là. Tous ceux qui travaillent pour Radio-Canada à travers le Canada vont voter pour qui aux prochaines élections? Avec ce qu'elle veut mettre en place. Ben, là.
Ils vont voter pour les libéraux.
Ils vont voter pour les libéraux. Ben oui. Mais elle dit qu'elle veut dépolitiser tout ça, le service public. C'est de la grosse hypocrisie qui va faire en sorte que les libéraux vont encore piger dans les poches des Canadiens pour pouvoir s'auto-promouvoir en haut.
Tu sais, moi, les grands débats de valeur éthique sur l'argent et l'information, il me semble que c'est des débats qu'on peut faire quand c'est tranquille, là, quand on n'a pas de vrais problèmes à régler. Tu sais, quand c'est... Une journée tranquille, dans une semaine tranquille, dans un mois tranquille, avec tout ce qui se passe dans le monde présentement. On peut-tu focusser, s'il vous plaît, messieurs, dames?
On a même confié une mission à la Société d'État, celui de jouer un rôle de leader en innovation technologique, un secteur qui présentement est laissé entre les mains des oligarques américains.
Bon.
Une méchant orange, l'autre bord. Elle présente la SRC comme un élément vital pour la reconnaissance de la souveraineté canadienne et une différenciation culturelle. Elle va plus loin. Pascal Saint-Onge recommande de reconnaître dans la loi CBC Radio-Canada comme un outil pour lutter contre la désinformation dans la foulée de la commission Hogue sur l'ingérence étrangère.
Il y a quand même un point point, là, les gars, là, la, dans lequel il faut que vous ayez une nuance, là, c'est que vous avez quand même un contrôle sur cette information-là parce que vous la payez, parce qu'elle appartient au pays. Puis au moment où il y a moins de moyens, il y a moins... Puis là, c'est correct, on peut voir, est-ce que c'est une somme de 20$, une somme de 30$, mais au moment où vous amputez ça, le problème, c'est que je vais vous entendre dans 5 ans dire, mais là, on n'a plus d'informations neutres, on n'a plus... Puis pendant qu'on avait de l'investissement puis qu'on avait une possibilité ouais. d'en faire, puis qu'on a coupé là-dedans, puis qu'on n'en a pas pris soin, puis que c'est là, à ce moment-ci, maintenant, qu'on devrait critiquer puis poser des questions, on va jouer avec cette démocratie-là, puis ce qui nous appartient comme étant justement un réseau d'informations qui devrait être valorisé, revu assurément, peut-être peaufiné, peut-être retravaillé, mais pas à cracher dessus pour que le monde commence à l'haïr.
Mais ça, tout le monde avait compris.
Ben, pas tant. Ben, parce que moi, j'entends en ce moment...
Les gens comprennent. C'est la stratégie derrière des libéraux pour se mettre encore une fois de côté.
Oui, mais il faut faire attention.
Radio-Canada.
Il faut faire attention par rapport à la manière dont on le dit. Parce que
on retire la méchante
entreprise
privée.
Ce qui vient me chercher un peu, c'est de voir des textos rentrer, des trucs comme ça. Fuck Radio-Canada, de ci, de ça. Nous, c'est même pas un compétiteur par rapport à la pub. Puis on, vraiment, là, faut jamais que ça rentre la publicité dans ce réseau-là. Là.
Ben, il y en a déjà, télé.
Ils en font en partie. Sauf que c'est vrai que c'est pas leur cheval de bataille.
C'est parce
qu'il faut pas que ça le devienne.
C'est parce qu'ils veulent porter les deux chapeaux en même temps. Dans les 10 dernières années, à Radio-Canada, on a coupé des postes de reporters internationaux un peu partout sur la planète. Pendant ce temps-là, y a-tu moins de chanteurs à l'émission du samedi soir de France Beaudoin? Ils sont encore
pertinent.
5 à chanter trop fort. Là,
puis
oui.
là, c'est là où je trouve ça pertinent. On peut se questionner, on peut se dire, puis pour le journalisme international, c'est une décrépitude totale.
Avant de venir chercher plus d'argent dans nos poches à nous autres, les contribuables, pour la qualité de leur information, ils ont du ménage à faire, un ménage qui s'obstine à
ne pas
faire.
Pour moi, ça, c'est une critique intéressante. Mais de juste aller parler de l'argent, puis ils font pas leur travail, puis ci, puis ça, ça
mais
vient me chercher parce que...
Pas leur travail.
Je parle en général, il y en a qui l'écrivent, il y en a qui le disent. Puis ça, c'est ça, je vais me battre. C'est pas physiquement, là, pas
ben,
comme au hockey à
soir. J'espère qu'ils travaillent. Ils sont 26, une émission de radio comme
ça,
la nôtre.
Ça, on peut se questionner.
Elle nous a dit tantôt qu'elle a découvert qu'elle était aux hommes quand elle a vu Brad Pitt embrasser la personne qu'il avait prise en otage.
C'est dans quoi, ça?
Dans
après
3.
L'avoir battu.
OK. Ouais.
Oh, j'ai dit que c'était...
Ils se sont embrassés. Oh. C'est là qu'elle a découvert qu'elle était aux hommes.
Bon, ouais, c'est...
Moi, ça explique
ça.
Tout.
OK. C'est-tu à Radio-Canada que t'as écouté ce film-là?
C'est sûr que je vous envoie au cachot. Puis c'est une façon gentille de le dire.
Ouais. Mais actuellement, c'est 33$ là, que tout le monde, incluant tes futurs enfants, Pascal, envoie à Radio-Canada.
Ben oui, je les paierais pour eux. Là.
Ouais. Mais de voir que on retire l'entreprise privée qui casquait un peu le manque à gagner pour Radio-Canada. Puis là, on dit, ben écoute, ce sera à nous, le gouvernement, de casquer pour le manque à gagner des entreprises privées qui auront pu à placer de la publicité dans le service des nouvelles, exemple. Moi, je trouve ça particulier.
Tu viens de me faire
une stratégie.
Tu viens de me faire allumer sur quelque chose. Là, j'ai erré tantôt. Là, j'ai fait de la désinformation. Le forfait familial de Netflix est pas mal moins cher que ce qu'on demande pour Radio-Canada. Tu viens de me faire allumer qu'on est 4 chez nous. C'est 4 fois 33. Là.
C'est vrai?
Oui.
Oh, là, là.
Ben là, forfait familial. Je suis capable,
sérieux,
de brancher Audrey Pinchot sur mon familial
fini,
Netflix.
C'est fini, 34, là, c'est fini ton passage.
À 25$ par mois.
D'habitude, je garderais 3 heures de plus. Là, je pense que c'est fini.
As-tu têté ton Netflix?
Hein, oui.
Ah oui?
J'y ai offert gracieusement.
Oh, c'est
mais toi, t'as souvent été responsable de tes affaires, les applications. Puis je me souviens que dans ton ancienne vie radio, il y a plein de gens qui avaient tes codes aussi.
Oui.
T'étais comme la personne qui donnait ses codes à tout le monde.
Ben,
c'est
écoute,
généreux.
C'est parce qu'on a besoin, veut pas, pour suivre les affaires. Fait que ouais, on fait de la colocation. Vois-tu, mon compte Crave, c'est pas mon compte Crave, c'est le compte Crave à Véro.
OK, vous le partagez.
Ouais. Interchange. Tu vois,
elle a mon
généreux.
Disney+. J'ai son Crave. On fait du...
C'est un peu crosseur, mais c'est des entreprises privées qui te crossent aussi.
Ben, tu sais que t'as un nombre de terminaux maximum. Fait que moi, je suis dans les règles, là, dans le fond. Oui, avec Spotify et tout ça, mais j'ai une famille élargie.
Faut-tu que vous appeliez pour vous dire, là, c'est moi à soir?
Non, pas besoin.
C'est jamais arrivé?
Pas encore,
que vous étiez tous sur la même affaire, non?
Non, le Spotify, des fois, ça arrive.
Ça bug.
Mais c'est pas long qu'on s'en place.
En passant, merci à l'auditeur qui rappelle... Oui, il l'a dit.
Ah oui?
Merci à l'auditeur qui rappelle que... Moi, c'est correct, j'ai trouvé ma libido près de Brad Pitt, mais on se souvient qu'Audrey, c'était avec Dobby, là.
Ouais, c'est sûr qu'entre les deux...
Dobby.
Dobby, c'est un elfe...
de maison dans Harry Potter.
Chétif et laid dans les films d'Harry Potter, ouais.
Avec même pas de sexualité, je pense.
Elle avait un gros toutou de Dobby, puis elle lui faisait des choses.
C'était une statue, c'était même pas doux, là.
C'était sa première poupée gonflable.
C'est pas une farce.
Non. On va laisser Tichum dans l'ignorance de tout ça.
Oui. Il écoute pas beaucoup l'émission l'après-midi, non. Non, il l'a dit, hein. Elle parle trop.
Denis Gravel, on te reparle tantôt à 14h.
Salut.
Salut. Bye-bye, puis bonne game à soir.
Yes, sir.
Oh, c'est lui, Dobby?
Ouais, c'est ça, Dobby. Elle se pratiquait à frencher sur son...
Je sais pas ce qui est le plus toxique, mais vous travaillez avec des femmes toxiques.
Clairement.
Ben écoute, on peut pas être 25 d'une émission de radio, fait qu'on prend ceux qui restent. Hein.
Exact.
C'est ça qui arrive.
Midi 35, on vient.